superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
Un politologue pas comme les autres. Loïc Passy.
C'est pas le temps de faire ça.
Loïc, bonjour.
Salut Benoît.
Bon, alors la guerre, le fantasme de Vladimir Poutine commence à coûter cher là aux Russes.
Ça commence à coûter très cher aux Russes parce qu'ils n'arrivent plus à payer pour la guerre. Vladimir Poutine a demandé au ministère russe de couper dans leurs budgets locaux tous les ministères pour financer l'effort de guerre. Donc les Russes vont commencer à souffrir de coupures de services ministériels dans toutes sortes de domaines, dans toutes sortes de secteurs. On peut imaginer la santé, les transports, etc. Ça commence à avoir des répercussions parce que cette guerre lui coûte très cher. Et cette guerre, il ne sait pas quand il va la gagner. On sait qu'on en a parlé hier, mais ça continue aujourd'hui. Les Ukrainiens continuent à faire des progrès dans l'Est et dans le sud, à Luhansk. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais les Russes, dans les médias d'État, disent oui, on a des problèmes de troupes au front, nous n'avons pas assez de troupes en ce moment au front, et laisse entendre que c'est un peu normal que les Ukrainiens progressent. Donc, on prépare l'opinion publique. Mais attends, là, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y a des soutiens à Vladimir Poutine, des nationalistes, qui sont déchaînés, qui sont enragés, qui n'arrivent pas à comprendre que l'armée russe recule, parce que pour eux, ce sont des nationalistes qui pensent que l'armée russe est invincible, et donc si elle recule, il faut forcément qu'il y ait des raisons. Alors, il y a des micro-blogueurs, il y en a beaucoup, qui sont sur le terrain, puis qui sont un peu partout dans la société russe aussi, qui commencent à critiquer les dirigeants de l'armée, et qui disent le ministère de la Défense ne fait pas ce qu'il doit faire, etc. Sauf que, je te l'ai dit déjà, un des problèmes, c'est que Vladimir Poutine lui-même s'est improvisé général et lui-même prend des décisions sur le terrain. Donc, il est responsable directement d'un grand nombre des reculs de l'armée russe dans la région. Donc, ça pose un problème. Il y a les vétérans aussi. C'est les vétérans, ce sont des gens qui sont très nationalistes, très fiers de l'armée. Évidemment, ils ont passé leur vie là-dedans. Et eux ne sont pas du tout contents de la façon dont la mobilisation se fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on a mobilisés alors qu'ils n'auraient jamais dû l'être, parce qu'ils sont inaptes au combat, parce que c'est trop lent. D'ailleurs, on a appris que la mobilisation, en réalité, aurait commencé au mois de mai dernier, subrepticement. Il y a beaucoup de gens qui sont entraînés, mais qui ne sont peut-être pas encore tout à fait au front. Mais enfin bon, ça c'est une autre question. Mais cette mobilisation divise les vétérans qui sont mécontents du gouvernement de Poutine. Et puis, tu as enfin un troisième groupe. C'est le groupe, par exemple, de dirigeants comme Razan Kadyrov, qui est ce dirigeant tchétchène qui a dit qu'il fallait utiliser la bombe atomique, qui veut que l'armée russe utilise des moyens beaucoup plus radicaux. Alors, tous ces gens-là sont divisés, et c'est le symptôme, donc, d'un manque de soutien, en fait, à Vladimir Poutine à l'intérieur de l'armée russe. Il faut bien que quelqu'un soit responsable, et ultimement, c'est Vladimir Poutine.
OK, et pourquoi Poutine ne fait pas appel aux gardiens de la révolution en Iran?
Parce qu'il n'y en a pas de gardiens de la révolution, lui. parce que son pays, de toute façon, est très corrompu. L'armée, hélas, pour lui, est à l'image de la société russe, incompétente et corrompue. Vladimir Poutine a tranquillement ôté... La Russie se dirigeait tranquillement vers une démocratie. C'est difficile d'arriver à une démocratie quand on a connu siècles de régime autoritaire, de royauté, etc. Mais elle y arrivait tranquillement. Et il a tout fait pour déraciner la démocratie. Mais sans démocratie, t'as pas d'opposition, pas de critique du gouvernement, pas de médias libres. Donc on critique pas non plus les apparatchiks, on critique pas non plus les gens qui sont très riches et qui sont corrompus eux aussi. Donc la société part à la dérive tranquillement. Le dirigeant, lui, s'imagine que tout va très bien, jusqu'à ce qu'il soit confronté à une véritable crise, la guerre en Ukraine, en l'occurrence. Donc, c'est ça qui est en train de...
OK, je vais aller en Iran, Loïc. Faut passer à un autre sujet, là, parce que Poutine, on va pas le régler, puis il est fou, puis...
Iran, c'est en train... ça dérape complètement. Alors, en Iran, il y a 17 villes qui sont soulevées. Il y a 14 des manifestations dans 14 provinces. Mm-hmm. Et les manifestations gagnent toutes les universités maintenant, y compris des universités où sont des enfants de hauts dirigeants, des universités très prestigieuses en Iran. Donc, ça va très très mal là-bas aussi, et les gens sont enragés. Et il semble, d'après beaucoup de gens qui sont des observateurs à l'intérieur même de l'Iran, ou qui connaissent extrêmement bien l'Iran, il semble que ce qu'on entend maintenant, c'est que les Iraniens n'ont pas peur de se faire tuer. Et ils disent, nous n'avons pas peur des balles, on n'a pas peur de se faire tuer, tirez sur nous, mais nous, on veut faire la révolution, on veut se débarrasser de ce gouvernement. Et donc, ils avancent. Malheureusement, les gardiens de la révolution dont tu parlais tout à l'heure, c'est eux qui sont 200 000 personnes, c'est eux qui sont financés en grand, qui sont une armée, si tu veux, d'élite financée par l'État. C'est eux aussi qui tiennent entre leurs mains toute l'économie de l'Iran, c'est eux qui la dirigent en grande partie. Alors ces gens-là, évidemment, veulent pas perdre le pouvoir, veulent pas perdre leurs privilèges, et c'est ces gens-là qui sont dans les rues, c'est ces gens-là qui, en ce moment, arrêtent les manifestants. Et donc, il y a vraiment... Mais si tu veux, tant que cette mini-armée-là sera pas confrontée par l'armée régulière, malheureusement, ça va être très difficile pour la population de faire la révolution, parce qu'il n'y a pas non plus de leader qui prend le mouvement, qui prend la tête mouvement de protestation en Iran.
Attention, attention, là, Juliette Binoche s'est coupée les cheveux en solidarité avec les Iraniennes. Les choses vont changer.
Ça change tout. Je vais être obligé de refaire complètement mon analyse.
Parce que oui. Et Donald Trump, qui est devant la Cour suprême, pourquoi on parle encore de lui?
Mais parce que, quand même, c'est l'ex-président des États-Unis et il veut se représenter. Puis il pourrait être président des États-Unis en 2024. Et plus que ça, c'est lui qui est derrière les Républicains, qui pourrait être majoritaire au Congrès dès novembre. Donc c'est pour ça qu'on parle de lui, parce que malheureusement, il a une influence politique énorme aux États-Unis encore. Et tu te souviendras qu'on avait cet été saisi chez lui, le FBI, des documents ultra-secrets. Il avait protesté, évidemment, et il avait demandé à ce qu'un enquêteur spécial soit nommé. Mais ce qui a été fait, et ensuite il s'est rendu devant le tribunal en disant « Moi, je ne veux pas que le FBI fasse enquête sur ces documents-là tant que l'enquêteur spécial n'a pas terminé de réviser tous ces documents, de les regarder », ce qui nous mène, comme par hasard, à la fin octobre, début novembre. Alors, le juge de première instance, la juge qui a été nommée par Trump, a dit oui, c'est très raisonnable, effectivement, ils n'ont pas le droit de faire ça, le FBI n'a pas le droit de faire ça. Le FBI a été en appel et a dit non, écoutez, il y a des documents ultra secrets là-dedans qui n'ont rien à voir avec Donald Trump. Et les trois juges de la cour d'appel, dont deux étaient nommés par Trump, ont dit effectivement... Trump n'a pas prouvé que ces documents lui appartenaient et il n'a pas démontré non plus que ces documents ultra-secrets pouvaient lui être utiles. Donc, on ne voit pas pourquoi vous pourriez cesser de faire enquête là-dessus. Vous devriez cesser de faire enquête là-dessus. Et là-dessus, donc, Trump a dit, très bien, j'amène ça devant la Cour suprême. Donc, on va voir si la Cour suprême va accepter d'entendre la cause et, deuxièmement, ce que la Cour suprême va en dire si elle l'accepte.
Quelle saga interminable, hein? C'est interminable. Bon,
interminable.
Parfait. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. L'Arabie Saoudite, rapidement sur le prix du pétrole.
Oh ben, ils vont faire monter le prix du pétrole parce qu'ils sont pas contents. C'est tombé de $120 le baril à $90 le baril. Ça fait pas du tout l'affaire des Européens, ça fait pas ni des États-Unis, parce que si le prix du dollar monte, ben évidemment, ça va enrichir davantage la Russie, même si elle brade son pétrole à la Chine et à l'Inde. Donc, l'Arabie Saoudite, encore une fois, fait cavalier à part, encore une fois, travaille contre les intérêts des États-Unis. Ça devient une habitude chez l'Arabie Saoudite.
Loïc Tassé, merci. À demain.
Salut.